Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou aussi en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes sur le sujet des rendez-vous au jardin qui sont organisés ce week-end du 4 au 6 juin. Pour cela, nous avons des invités au studio, à commencer par Marie Marquet. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Jean-Claude Rouchouz.
Oui, bonjour. Bonjour.
Et pour finir, Olivier de Sépibus.
Bonjour. Bonjour.
Alors, tous trois, vous représentez entre Sources et Racines et les Jardins Bleus. Vous êtes ici donc pour présenter ce week-end qui sera finalement avec beaucoup d'animation.
Oui, alors en fait, on vient pour présenter un programme conjoint autour de l'événement national qui s'appelle les Rendez-vous au Jardin. Donc les Rendez-vous au Jardin, c'est un événement qui est porté à l'échelle nationale par la DRAC, hein, les affaires culturelles, et qui permet de donner accès alors soit à des lieux qui ne sont pas accessibles le reste de l'année, soit à des lieux qui sont accessibles mais qui vont à cette occasion organiser des événements en plein air et donc autour des jardins. Et ça existe depuis très longtemps, je ne sais plus combien, mais nous, ça fait au moins 10 ans qu'on fait cet événement. Donc ça fait vraiment longtemps que l'événement existe. Et ce qui est chouette, c'est que c'est l'occasion pour, dans le Diwa, donner un petit peu de visibilité à des lieux qui déjà sont actifs et surtout pour se rencontrer et partager autour de ce travail sur les jardins et sur la biodiversité des jardins. Voilà, donc on a fait un programme commun. Voilà, un peu tardivement cette année. D'habitude, on est plus organisé en amont. Mais malgré tout, avec tous les événements de cette année, on a réussi à avoir des belles propositions.
Alors pour cela, il y a divers jardins associés, le jardin bleu, le jardin nourricier et puis les jardins de l'aube, par exemple. Cette envie de vous regrouper, pour vous, c'est quelque chose qui devient primordial?
Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour Sources et Racines, c'est quelque chose qui était vraiment important, puisqu'en fait, c'est l'occasion, un peu dans l'année, de créer une proposition avec un cheminement entre des espaces différents et des propositions différentes. En fait, on est nombreux à avoir des axes de travail complémentaires, mais pas forcément les mêmes. Et c'est l'occasion que le public puisse à la fois prendre conscience de la diversité des propositions qui existent et puis mesurer l'existence de tous ces lieux, cheminer. Donc avoir un programme commun, c'est une porte ouverte à ce que toutes nos activités aux uns et aux autres se complètent encore mieux, peut-être même dans le reste de l'année. C'est un peu l'occasion, en fait, d'être ensemble pour parler de ce qu'on propose.
Il y aura 10 visites de jardins donc, qui auront lieu en général sur quelle journée? Le samedi. Et ça sera de 13 à 15 heures et une deuxième de 15 à 17 heures avec une inscription de préférence pour ces visites.
Ouais. Alors en fait, on a le jardin bleu d'Olivier de Sépibus, les jardins nourriciers donc, qui sont en Vallée de Quin, qui vont parler de leur travail, donc qui est un travail plutôt de production avec les habitants, et qui eux interviendront le dimanche. Et puis nous, sur ces racines, on a invité Jacques Planchon à venir partager avec nous une balade autour de la biodiversité cultivée. Et du coup, l'idée, c'est de faire un cheminement dans les jardins de l'Aube. Donc là, on va pas rester au jardin qu'on a planté, au jardin botanique, mais on va faire une promenade et on va réfléchir à l'histoire de ces lieux et au travers des espèces qui y poussent, au travers des essences qu'on peut reconnaître le long du chemin, qui ont été plantées, qui ont été introduites et qui racontent en fait une histoire des hommes et des plantes. Et donc ça, c'est notre proposition avec donc ces deux horaires dont tu viens de parler, donc 15h. Et 13h et 15h.
Tu parles de Jacques Planchon. Quel apport amène-t-il dans cette manifestation une certaine histoire de l'agriculture diwaze?
Alors l'idée, c'est qu'on va faire cette balade à trois voies. La thématique, donc, c'est vraiment l'histoire des plantes cultivées et on va remonter très haut dans le temps. Donc Jacques, il a une bonne connaissance des pratiques agricoles, même très anciennes, hein, dès l'âge du bronze, ensuite avec la période romaine. Moi aussi, je me suis beaucoup intéressée à la façon dont sont arrivées en Europe toutes les espèces qui maintenant font la base de notre alimentation, notamment les céréales, toutes les, ce qu'on appelle les acquisitions du néolithique, hein, les premières plantes qu'on commence à cultiver. Donc on va parler de cette ancienneté, mais on va aussi parler des plantes plus récemment arrivées, de toutes les plantes compagnes aussi, sur lesquelles Grégory Lemoine a beaucoup travaillé, donc les plantes qui accompagnent les plantes cultivées, les plantes messicoles, celles qui vont pousser à côté des champs, celles qui vont être là parce qu'elles font partie du cortège qui accompagne les cultures et qui en fait sont des indices de l'ancienneté de certaines cultures. Donc on va faire un cheminement là-dedans et Jacques apporte évidemment toute sa connaissance du territoire.
Alors oui, justement, et Marie Marquet, ta pratique sur les plantes t'amène sur quel débouché là, à l'heure actuelle, et est-ce que ça tend vers un développement à venir ?
Disons que là, dans le cadre des rendez-vous en jardin, en tout cas, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup intéressée aux plantes textiles et aux plantes pour la teinture. Et il y a des spécificités dans le territoire, puisqu'il y a une histoire des mûriers, il y a une histoire du chanvre cultivé, il y a un certain nombre d'espèces qui étaient cueillies pour la teinture. Mais là, dans le cadre des rendez-vous jardins, en fait, ça va s'insérer dans une réflexion plus large qui va surtout porter sur les plantes alimentaires. Et donc, sur partager avec les visiteurs qui viendront une réflexion plus large sur la façon dont on a construit dans les jardins. De la même façon que quand on chemine dans une ville, on voit l'histoire de cette ville. Et bien, quand on chemine dans un jardin, on voit l'histoire d'un jardin, ce qu'on a construit par l'implantation de plantes, par la façon dont les entretenir, par la façon dont on sélectionne les plantes qu'on l'on garde. Et donc, c'est là, le récit va plutôt porter sur cet aspect plus global de la diversité végétale et de ce qu'elle raconte du point de vue historique, que sur le sujet précis du textile, même si il y a toujours des choses à dire.
Jean-Claude Rouchouz, vous êtes trésorier de l'association Sources et Racines. Depuis sa création...
Les activités générales de l'association Sources et Racines, il y a quatre activités. La création du jardin de plantes médicinales et tinctoriales au jardin de l'Aube, derrière l'école Chabestan. Hein, ça, c'est une création. Ensuite, des balades nature que l'on fait tout au long de l'année. La dernière, elle a eu lieu il n'y a même pas une semaine, avec 16 personnes qui étaient présentes. En général, il y a de 15 à 25 personnes que l'on emmène en balade nature, géologie, faune, flore, castor. Bon, c'est très varié, les gens sont ravis. Donc, les balades nature. La troisième activité qui est importante, c'est le salon d'automne qui a lieu à la mi-novembre cette année. Donc, c'est un salon mycologique, champignons, mais aussi, d'une manière générale, sur les savoirs nature. C'est un salon qui accueille quand même entre 500 et 600 personnes depuis 2012. Et depuis 2017, il est pris en charge par Sources et Racines. Il aura lieu cette année à la mi-novembre. Et la troisième activité, c'est une activité d'édition. Donc on peut éditer. Par exemple, moi je viens d'éditer un essai de mycologie éthologique qui s'appelle « Le comportement des champignons ». Là, j'en ai vendu 80 exemplaires dans toute la France. On a une activité d'édition. Et la prochaine publication que je vais faire, c'est sur la géologie du Diwa, la géologie de Marignac, la faune, la flore de Marignac. Voilà. Donc, cette association, elle est dynamique avec une assez bonne variété d'activités. Les balades sont pour tout le monde. Hein. En général, c'est pas compliqué. C'est pas des balades difficiles.
En revenant pour les rendez-vous au jardin, je voulais savoir quelle sera votre participation pour ce week-end. Ben,
moi, comme j'étais prof de sciences nat, donc j'ai des connaissances en botanique, donc je peux expliquer le nom de certaines plantes, les propriétés de certaines plantes. Il y a ça.
Donc vous serez présent.
Géologie, je peux donner des détails sur la géologie du Diwa. Je vais publier d'ailleurs dans Chronique du Diwa, il va y avoir en juillet un article important sur la géologie du Diwa. Donc, les gens posent des questions, tout le monde essaye de répondre.
Oui, Marie.
Oui, pour revenir au rendez-vous au jardin. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va faire cette balade à plusieurs voix et qu'effectivement, on s'est organisé un peu donc, avec Grégory, Jacques, pour donner un fil conducteur. Mais Jean-Claude et peut-être d'autres personnes qu'on a aussi invitées pourront venir apporter leur regard sur cette construction du paysage et sur l'histoire de ces jardins dans le cadre précis des rendez-vous au jardin.
Je vais vers... Olivier de Sébibus, vous êtes là pour les Jardins Bleus.
Le Jardin Bleu.
Le Jardin Bleu. Alors, pourquoi ce nom du Jardin Bleu ?
J'ai acquis cette parcelle, qui est une grande parcelle de 6500 m², donc au Jardin de l'Aube, il y a maintenant 3 ans. C'était une page blanche. Alors, c'est bien une page blanche, mais il faut du temps pour y installer des choses et y créer une activité. Et disons qu'il est clair que dès le départ, c'était une activité qui est liée, la végétation devait être liée aux abeilles, à la question des plantes mellifères. Mais finalement, dans le nom, etc., je ne voulais pas je ne voulais pas que dans le nom, on comprenne une fonction. Je ne voulais pas lui assigner une fonction. Voilà. Puis un jour, j'avais semé de la facélie. Et il y avait un grand champ de facélie tout bleu à cette époque-là. Et mon fils arrive, il était un peu plus jeune, vers 4 ans. Et puis il dit « Oh papa, le jardin est tout bleu ». Et voilà, sur toute la liste des jardins qu'on avait, c'est le jardin bleu qui est resté. Parce que justement, et donc je suis artiste, et c'est aussi un travail sur l'imaginaire, les imaginaires, de la relation des humains avec les entités naturelles, dont l'abeille, mais aussi les végétaux. Et donc cette question d'associer un jardin avec une couleur qui n'est pas une couleur de jardin, puisque le bleu est peu présent dans un jardin ou de façon très... Voilà, c'est plutôt la couleur du ciel. C'était aussi une façon d'associer déjà des imaginaires et de ne pas signer un jardin, de mettre ce jardin vers un récit, mais un récit en devenir. Alors c'est intéressant avec Sources et Racines, parce que leur travail important porte, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'ils portent sur des questions de patrimoine et des questions d'histoire, ce qui est important, de savoir d'où on vient et qu'est-ce qu'on en a fait, etc. Moi, mon problème, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Et la relation que je propose dans cette réflexion, la relation à l'entité naturelle que je propose, c'est pas des tomates dans le jardin ni des courgettes, mais c'est des abeilles. Et sur la question des paysages mellifères, c'est-à-dire un paysage mellifère, c'est un paysage qui apporte le nourrissement et la nourriture adéquate et nécessaire aux insectes pollinisateurs. Enfin, voilà. Donc le jardin bleu, voilà, c'est un jardin en devenir.
Je rappelle au public, hein, donc ce rendez-vous au Jardin National a lieu effectivement du 4 au 6 juin, mais sur le DIWA, donc ça se limitera juste au samedi 5. Hein.
Non, alors du coup, il y a aussi le rendez-vous qui est donné par les jardins nourriciers en Vallée de Quin pour une proposition qui aura lieu, donc je peux en parler maintenant, est-ce que c'est le moment ?
Ouais. Oui, tout à fait.
Donc les jardins nourriciers, donc une association bien connue qui travaille sur différents lieux, mais qui a notamment une parcelle à Sainte-Croix, sur laquelle ils font de la production alimentaire en impliquant des habitants, des personnes qui veulent contribuer au jardinage. Et ils ont mis en place un modèle à la fois atypique et assez prometteur d'une agriculture partagée avec des gens qui participent et des gens qui encadrent et qui aident à ce que la production soit quand même conséquente. Voilà, donc ils ont des modes de culture aussi très préservés, très choisis. Et ils se proposent, donc, dans le cadre des rendez-vous au jardin, en synergie avec donc, nous, sur ces racines, le Jardin Bleu et aussi cette participation du musée donc, le samedi. Eux, le dimanche, proposent en Vallée de Quin de 10h à 12h sur leur parcelle à Sainte-Croix. Donc, c'est une parcelle qui est juste au bord de la Sûre, hein, tout en bas, quand on descend après le village et qu'on passe le petit pont. Donc sur cette parcelle, ils se proposent d'accueillir le public, de parler du projet à la fois sous sa forme associative, qui est particulière, à la fois du point de vue de leur technique de culture, la manière dont ils font le lien avec le public qu'ils accueillent, et aussi donc des préoccupations qu'ils peuvent avoir sur les semences, sur l'eau, sur les modes de production. Voilà. Donc ils vont faire cet accueil de 10h à 12h le dimanche. Voilà. Donc du coup, pour nous, les rendez-vous au jardin cette année, c'est le samedi dans les quartiers de l'Aube, dans le jardin de l'Aube, avec le jardin bleu d'Olivier de Sépibus, le jardin botanique de Sources et Racines et des balades tout le long des jardins de l'Aube. Et le dimanche, en Vallée de Quin, avec les jardins d'un nourricier.
Et à Sainte-Croix, voilà.
À Sainte-Croix.
Aussi. Je reviens vers Olivier de Sébipus, justement, ce samedi 5 juin. Donc, qu'est-ce qui sera proposé au Jardin Bleu ?
Alors, le Jardin Bleu, il se trouve chemin de l'Aube. C'est un chemin qui lie Vercors Park et qui rejoint le parking Méros jusqu'au parking Chabestan et qui passe par donc, les jardins familiaux de Die, où est implantée donc, la parcelle des Sources et Racines. Donc effectivement, depuis les jardins familiaux, qui s'appellent les potagers Gérard, où il y a donc les parcelles de Sources et Racines, là, il sera indiqué le Jardin Bleu, mais c'est très facile à trouver, c'est pratiquement en face de Vercors Park. Donc là, à partir de 15h, il y aura un atelier animé par Stéphanie Caillot, un atelier de gravure pour enfants et adultes, qui va durer 2 heures. Moi, à 15h30, je vais faire un atelier qui se nomme « Planter pour les abeilles ». Et il sera question de la synergie, des dynamiques et des complémentarités qu'il y a et à trouver entre le nourrissement des insectes pollinisateurs, dont les abeilles, et le nourrissement des humains. Donc on est dans une problématique à venir, mais dans une problématique de nourrissement, mais qui n'est pas uniquement celle des humains, mais aussi celle des abeilles et des insectes pollinisateurs. Voilà. Et à 18h, il y aura un petit concert de Rebetiko, alors c'est de la musique grecque populaire, d'un groupe qui s'appelle Western Teke, chant, bouzouki, guitare, Tassos et Céline, qui à 18h. Voilà. Donc avec les restrictions Covid, il y a une jauge maximum de 50 personnes et on fermera à 20h30, 20h45. Voilà. Mais le concert est à 18h avec un petit buffet. Voilà,
voilà, oui, une petite tarte à partager.
Oui, voilà, les gens viennent avec une tarte. Et nous, on a une buvette.
Super.
Le point commun entre tous ces jardins réunis pour ce projet, lequel est-il ?
Déjà, ce qu'on peut dire quand même, c'est que on est tous, pour le samedi, on est voisins. Hein. Donc c'est vrai que les années précédentes, on avait aussi travaillé avec les Potagers Gérard, qui sont une association, comme l'a rappelé justement Olivier, de jardins familiaux, de gestion de jardins, de parcelles qui sont jardinées par des familles. Et c'est vrai que cette année, ça s'est présenté qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de s'engager sur l'événement. Mais c'est vrai que sur ce secteur du quartier de l'Aube, même si une partie des jardins ont été un peu grignotés, je pense, au fur et à mesure du temps, il reste quand même un bel ensemble de jardins le long de deux chemins, avec un fragment de canal. Et donc, il y a une cohérence, je pense, à faire vivre ensemble aussi les différents projets qui parlent de cet endroit et qui l'animent et qui proposent aussi, comme disait Olivier, son devenir. C'est-à-dire pour qu'ils se maintiennent, pour que ces jardins perdurent et qu'on puisse continuer à avoir des jardins à côté de la ville et non pas forcément des lotissements ou des choses, des parkings. C'est important qu'on attache de l'importance à la construction que représentent ces espaces-là.
Oui, et puis ce que je voudrais ajouter une chose aussi, c'est qu'on connaît beaucoup les jardins du Perrier, qui sont très vastes, très grands. Et les jardins de l'Aube, c'est vraiment un petit écrin, assez peu connu. Donc je ne crois pas que les gens qui ont un jardin à l'Aube aiment cette discrétion, on va dire, qu'il y a ici. Mais c'est vrai que cette discrétion... avec la présence donc des jardins de Sources et Racines, moi qui suis en train de créer voilà une activité en devenir et tout un tissu aussi qui est lié à la source et au canot, il y a en devenir une synergie. Que les questions de réchauffement climatique, de forte chaleur et d'assèchement des sources, malheureusement, fait que aujourd'hui et demain, on va être de plus en plus confrontés à des questions extrêmement sérieuses Et il est vraiment important, dès maintenant, qu'on sache, créer des lieux, des ponts où on va pouvoir régler des conflits. Alors, nous, ce que l'on fait, c'est une goutte d'eau, peut-être rien du tout, mais peut-être que c'est le début ou l'émergence ou éventuellement l'application que on est là. On est là pour faire pousser des choses et que ce que l'on fait, c'est sérieux. Ça nous prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et que lorsque se posent des questions extrêmement sérieuses, telles que le réchauffement climatique nous impose, on va être dans des rapports conflictuels qui va être capable de régler de façon pacifique. Et ça, c'est maintenant qu'il faut qu'on sache créer des modes de relations qui soient capables de pacifier, parce que c'est hyper tendu déjà maintenant. Voilà. Bon.
Oui, c'est l'inquiétude partagée pour l'eau. Hein. Tous les étés, il y a ce problème des arrosages pour les jardins de l'Aube, des jardins du Perrier aussi. Ça, c'est une question que vous commencez à vous poser ou c'est déjà bien avancé? Je crois même que les collectivités locales se penchent aussi sur ce problème de l'eau. Et puis, il y a aussi auprès des jardins nourriciers une structure qui agit aussi pour ralentir ou du moins produire des retenues d'eau de manière à quantifier de l'eau pour toute l'année.
Ouais.
C'est, tu sais, de
à chaque fois, c'est, disons, ouais, c'est Jean-Claude en est le participant.
Ah oui, vous êtes le président de cette association.
C'est-à-dire qu'il y a une autre association qui s'appelle Créative Coopération Culture, dont je suis le président, qui démarre des recherches écologiques, écosystémiques, sur essayer de mettre au point des techniques d'approvisionnement en eau de façon judicieuse, en tenant compte de la géologie, de la géographie, des apports des plantes cultivées. Et on est en relation avec Tim Heider, qui a des jardins du côté de Valletquin, mais c'est aussi à Marignac, en fait, c'est à Marignac, c'est vers le col de Marignac. Donc, il y a un travail qui débute sur de nouvelles manières de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau pour les petites communes et pour ce qu'on appelle les bassins versants. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va s'étaler sur les années 2021, 2022 et 2023.
Et justement, cet aspect de proposition, est-ce que c'est aussi dans vos réflexions par rapport au jardin nourricier? Est-ce que vous êtes dans cette optique aussi, peut-être, de faire appel à ce genre de structure?
Alors, pour ce qui est des jardins de l'Aube, hein, et donc de la parcelle que nous, on travaille avec Sur ses racines, et des jardins familiaux donc, portés par les potagers rares, moi, j'ai pas mal, été investi dans la problématique de l'eau. Parce qu'il se trouve que sur ces parcelles-là, on n'est pas dans le secteur où le canal, pour l'instant, fonctionne. Donc, on est dans un secteur qui est, a priori, privé d'eau. Dans le système global des jardins de l'Aube, nous, on n'est pas dans le fonctionnement ancien, puisque le canal a été coupé par des aménagements. Donc, il y a eu des tas de réflexions. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que le problème n'est pas vraiment de faire appel à des structures dans l'immédiat. C'est surtout, en fait, d'arriver à faire la synthèse de l'ensemble des problématiques, à admettre qu'en fait le sujet... Pour moi, on en est au stade où il faut que, globalement, soit admis le fait que l'eau va être un sujet, comme le disait Olivier, crucial et très engageant parmi d'autres qu'on va devoir gérer là, et notamment sur les jardins. Et une fois qu'on a admis ça, comprendre qu'en fait, il n'y aura pas une solution, mais qu'il y a tout un ensemble de solutions systémiques qu'il faut réfléchir, et que tout ça s'anime, ça doit se travailler collectivement, ça nécessite aussi d'avoir des temps à la fois d'échange et des expertises, et que c'est vraiment sur cette capacité qu'on aura, comme tu disais Olivier, à travailler globalement ensemble et avec une bonne connaissance des sujets qu'on pourra trouver des solutions, parce qu'une solution, dire je mets une pompe ou je mets un tuyau ou je mets un bouton ou je mets un compteur, ça résout rien. Ce qu'il faut, c'est un ensemble de solutions. Et donc, c'est un gros boulot.
Oui, travail de concertation, hein,
voilà.
Surtout.
Voilà.
Oui, ce sujet, moi, ce que j'expérimente au jardin, c'est le jardin sec, en gros. Hein. C'est-à-dire que je plante Ben, je plante des végétaux. Une fois, bon, il faut les aider évidemment à s'implanter, mais après c'est qu'ils se débrouillent quoi. Et avec très peu d'eau, et enfin avec ce qu'offre le ciel. Et je dois résoudre expérimentalement une espèce de quadrature où il faut nourrir les insectes pollinisateurs, dont les abeilles évidemment, les humains. Et c'est une quadrature qui est en expérimentation au jardin. Donc je teste pas mal de végétaux et je vois comment ils réagissent à la sécheresse. Et moi, je fais une enquête de floraison estivale, partant de canicule.
Ouais. Les jardins de l'Aube et les jardins du Perrier, en fait, dépendent du débit de la Meyros. Hein, c'est la Meyros qui est extrêmement importante. Et la Meyros, il faut aussi qu'il y ait un débit réservé qui soit respecté. Donc, c'est assez difficile. Là, en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien entendu pour le mois d'août que souvent il y a des difficultés.
D'ailleurs, les nappes phréatiques, à votre connaissance, est-ce qu'elles se sont bien remplies cette année ?
Je pense que c'est moyen, c'est pas catastrophique parce qu'il a quand même pas mal plu ces derniers temps, mais on ne sait pas exactement l'avenir. Hein. Voilà, normalement, la Meyros, bien sûr, elle n'est jamais à sec. Hein. Il y a des sources importantes avec son affluent, le Raïs, donc c'est une rivière qui n'est jamais à sec.
Ouais,
mais son débit peut diminuer fortement au mois d'août.
Et puis, je vois aussi que vous présentez un modèle associatif sur les pratiques culturelles, donc qui comprennent l'eau, le sol et les semences. Cet aspect-là, c'est...
Ça, c'est ce que propose Tim, en fait, le dimanche à 10h, entre 10h et 12h. Donc, il propose... Donc, Tim, pour les jardins nourriciers, enfin, je dis Tim, peut-être d'autres personnes de l'association, je ne sais pas exactement qui d'entre eux sera là, propose d'accueillir le public entre 10h et 12h le dimanche pour effectivement présenter à la fois leur mode de culture et aussi leur méthode associative, enfin la manière dont fonctionne leur structure. Voilà, donc ça c'est...
Il y avait cet aspect aussi expérimental de la permaculture. Qu'en est-il de nos jours dans les jardins aujourd'hui ?
Ben moi, il me semble qu'il y a un savoir de jardinier au Perrier et à l'Aube qui est incroyable, extraordinaire. Et ce qui est génial, c'est que quand on se balade, à chaque jardin, il y a une particularité. Donc c'est vrai qu'ici à 10, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a personne qui va se prévaloir, donner des cours ou de je ne sais pas quoi de permaculture. Ce qui est finalement assez intéressant parce que je pense que la permaculture est très très souple dans sa façon de faire. Et est-ce qu'il faut le revendiquer pour en faire ? Je ne sais pas.
Je suis très d'accord avec Olivier. Je trouve que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on propose cette visite. Donc, je reviens toujours à notre sujet. C'est pour ça qu'on propose cette visite sur l'histoire des jardins et l'histoire de la biodiversité cultivée. C'est qu'en fait, il suffit de se promener et d'observer déjà l'existant pour mesurer à la fois le travail accompli par les générations antérieures qui a construit les sols de ces jardins, parce qu'en fait, les sols des jardins ne sont pas ceux de n'importe quel autre endroit. Il y a des sols très particuliers dans les jardins, et au niveau de leur qualité agronomique, et au niveau du pH, et au niveau de leur capacité à prendre l'eau. C'est des sols exceptionnels qu'on a dans les jardins, qui permettent la culture, parce qu'ils ont été améliorés pendant des siècles et des siècles. Le travail sur l'acheminement de l'eau, dont on vient de parler déjà, la sélection des espèces, qui s'est fait précédemment avant nous et pendant des siècles et des siècles aussi, depuis l'âge du bronze, comme on disait, qui a amené des espèces à être très caractéristiques de certains territoires et à pouvoir nourrir localement les populations, et qui, au cours du temps, évolue. Et voilà, on peut évoquer effectivement d'autres évolutions à venir. L'introduction d'espèces qui n'étaient pas là en raison du changement climatique peut s'imaginer pour les années à venir. Et en même temps, il y a aussi un patrimoine génétique d'espèces qui se sont implantées, qui ont été implantées ou qui étaient là et qui ont été valorisées très anciennement. Et ce patrimoine génétique des semences locales, du travail sur des espèces anciennes, fait qu'on a des espèces très très adaptées à notre climat, notre biotope, les sols calcaires qu'on a ici. Et donc du coup, ce patrimoine-là, il a une très grande valeur. Et nous, c'est vraiment aussi sur ça qu'on travaille. Donc il s'agit pas forcément de rentrer dans une catégorie, j'ai envie de dire... dont on se fait une idée un peu depuis quelques années de type d'agriculture, mais plutôt d'observer la diversité des pratiques et d'avoir conscience qu'il y a un patrimoine en termes de sol, de semences et de pratiques culturales, de plantations par exemple d'arbres ou de haies qui ont aussi généré certains types d'écosystèmes, etc. Et c'est ça en fait notre sujet. Et je pense que c'est cette diversité, cette richesse et aussi son ancienneté qui vont être passionnantes à raconter pour les rendez-vous au jardin.
Les jardins du Perrier sont extrêmement variés. Il y en a qui sont abandonnés, il y en a qui sont cultivés de manière traditionnelle, avec des engrais, il y en a qui sont en agriculture biologique, il y en a qui sont en permaculture, il y en a où on a mis des chevaux. Donc c'est extrêmement varié. Et les plantes sont très variées.
Et justement, ouais. Sur cette pratique du jardinage au jardin du Perrier comme exemple, cette diversité se maintient ou alors elle commence aussi à évoluer vers l'écologie, l'environnement?
Moi, je pense qu'elle a toujours existé dans ce secteur-là. Je pense que la biodiversité est très importante. Qu'elle est plutôt en augmentation, je ne la vois pas diminuer, vraiment. Mmh. Il faut quand même rappeler que dans le Diwa, c'est exceptionnel. On a plus de 1000 espèces différentes de plantes dans le Diwa. Il y a Diwa Vercors, il y a plus de 700 espèces de champignons. C'est exceptionnel. Il y a plus de 80 espèces d'orchidées dans le Diwa.
Et puis il y a le jardin d'agrément avec la pelouse bien tondue, bien verte, certainement faite naturellement ou alors grâce à l'apport de quelques substances.
Moi, si je peux me permettre d'intervenir, juste pour dire qu'en fait, depuis quelques temps, on a une réflexion sur les jardins, notamment sur ce que vient de dire Jean-Claude, sur la très grande diversité des pratiques culturelles et des usages, mais aussi un point de vigilance sur le fait que le prix des parcelles a énormément augmenté, qu'anciennement, en fait, les parcelles des jardins du Perrier, elles étaient associées à des habitats en ville. On est sur une ville très resserrée. Il y a quelques jardins en ville, effectivement, mais malgré tout, une bonne partie des gens avaient leurs moyens de subsistance et leur soleil et leur espace de respiration en ayant une parcelle associée, c'est-à-dire qu'il y avait la maison en ville sans jardin et le jardin au Perrier. Et ça s'est dissocié par les ventes immobilières et maintenant, les prix des parcelles est en train de devenir assez terrifiant. Et du coup, avec une nouvelle pratique d'achat qui va plutôt faire sortir du territoire la capacité à acheter, c'est-à-dire que c'est des personnes extérieures qui vont acheter pour faire de la maison secondaire. Et comme ça ne peut pas être construit, pour l'instant, ils sont protégés puisque c'est des jardins, alors on va aller plutôt vers des petits habitats légers, mais qui malgré tout tirent en fait les jardins vers une fonction qui est plutôt de résidence et de lotissement qu'une fonction nourricière. Et donc, le travail qu'on fait, nous, sur l'histoire de ces jardins et la mise en valeur de la diversité des pratiques anciennes, c'est quand même aussi pour rappeler qu'en fait, c'est extrêmement précieux, un jardin. C'est comme détruire un jardin qui a été jardiné pendant 5 siècles, c'est comme de détruire une cathédrale. C'est le même boulot d'arriver à fabriquer cette diversité du sol, cette diversité d'espèces, etc. Et donc, on a vraiment tous, en tant que Diwa, à avoir un point de vigilance sur... leur préservation et leur préciosité pour notre équilibre entre la ville et l'accès à l'espace jardinier. Et pour la subsistance aussi, hein, on peut imaginer que... C'était juste pour être précis sur le truc.
Mais c'est très bien, ce point de vue, ça lève des questions justement pour l'avenir.
Ouais, je pense qu'il y aurait, pour le coup, ça c'est d'autres émissions, parce qu'il y a un vrai sujet. On a aussi le projet de travailler plus largement sur cette question des... de la destination des terres et des semences. Alors, juste pour rappeler donc, l'événement, donc, les rendez-vous au jardin, ce sera samedi 5 à partir de 13h au Jardin de l'Aube avec Sources et Racines, à partir de 15h au Jardin Bleu pour un atelier gravure, et le dimanche en Vallée de Quin, à Sainte-Croix, au Jardin Nourricier, à 10h. Et donc, à chaque fois, des programmes qui sont disponibles sur le site de la DRAC. Donc, il y a un site en ligne. Si vous tapez « Rendez-vous au jardin dit », vous trouverez une partie des informations sur le site de l'Office du tourisme et également sur Facebook pour ce qui concerne Sources et Racines.
Et voilà. Les jardins de l'Aube sont à 10, derrière l'école Chabestan. Hein.
Voilà.
C'est Adi.
Merci.
Voilà, et pour conclure l'émission, on va écouter un morceau de musique Rebetiko, cette musique très caractéristique grecque.
Je vous remercie, Marie Marquet, Jean-Claude Rouchouz, Olivier de Sépibus, d'être venus nous parler donc de ces rendez-vous au jardin.
Η βοτανή μου έχεις δώσει και σε πόνεσα. Μάγισσα Θεσσαλονίκη, η καρδιά μου πως ανήκει, τώρα το νιώσα. Για σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι. Η πλανεύτρα ομορφιά σου με ξελόγιασε, η δική σου η αγάπη στην καρδιά μου σαν πουλάκι μπήκε φωλιάσε. Για σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλού. Σκλάβος έχω απομείνει μες στα χέρια σου, κι αν θα φύγω μακριά σου θα είναι σκέψεις μου κοντά σου στα άλλη μεριά σου. Για σένα την αγάπη μου έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι. Για σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι.